Lorsque Victor m'a appelé pour me proposer de venir prêcher ici, à Bouxwiller, au sein de votre assemblée, il m'a suggéré de trouver un thème pour ma prédication. Merci. Alors, au début, j'admets ne pas avoir trop relevé parce que j'ai pour habitude plutôt de faire ce que l'on appelle des prédications d'exposition, c'est-à-dire je prends un texte et linéairement, verset par verset, je l'explicite. Et pourtant, à mesure que j'étais en train de faire ma première ébauche de prédication sur l'Épître aux Galates, ce que m'a dit Victor m'est revenu en tête et je me suis dit, bon, est-ce que ça ne serait pas aussi là l'occasion de choisir une prédication avec un thème et donc de sortir de ma zone de confort ? Alors j'avoue que naturellement, ce n'est pas dans ce sens-là que je vais et ça m'a poussé effectivement à faire des efforts. Et du coup, je me suis rendu sur le site de votre assemblée pour voir un peu ce qui s'y prêchait. Et j'ai vu que chaque prédication avait un titre. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on fait une prédication d'exposition, on n'est pas nécessairement obligé de mettre un titre, on se contente généralement de mettre le passage en question. Alors j'ai dû trouver un titre, c'était plutôt pas mal, pour cette prédication. Le titre sera donc « Bonne et mauvaise langue ». Alors dit comme ça, ça ne dit pas vraiment grand-chose, ça fait même plutôt un peu mystérieux. Je vous prie de ne pas quitter la salle tout de suite, parce que je vais m'expliquer. Quand je rencontre de nouvelles personnes, notamment des frères et des sœurs en Christ, ce que je préfère... Oui, merci. Merci. Donc, ce que je préfère, c'est quand on échange à propos de nos versets préférés. Alors, souvent, c'est vrai que le verset le plus populaire, celui qui revient le plus souvent, c'est vrai que c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible, même pour les non-chrétiens. Et je dirais même que c'est même le verset le plus connu de la Bible. Pour ma part, parmi les versets que j'affectionne tout particulièrement, il y en a un peu seul dans son coin, un tout petit verset comme ça. Alors je vais vous le dire, on va voir si vous le connaissez. Si je vous parle de Proverbes chapitre 18, verset 21, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, c'est pas aussi connu que Jean 3,16. Hein. Et pourtant, souvent les gens le lisent, mais ne le retiennent pas. Alors je vais vous le lire, dans ma seconde 1910. Donc Proverbe, chapitre 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Est-ce que ça vous parle déjà plus ? Ah, vous voyez, hein. Il n'est pas aussi populaire, c'est dommage. Et là, je viens de vous citer la traduction second 1910. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais je me suis permis, à partir du texte hébreu, de le traduire plus littéralement. Vous allez voir que ça change sensiblement les choses. Donc, si nous traduisons littéralement l'hébreu, cela donne « Mort et vie dans la main de la langue, ceux qui l'aiment en mangeront le fruit ». En hébreu, le mot « main » signifie plus de choses qu'en français. La main, c'est à la fois le pouvoir, c'est aussi notre main tout simplement, mais c'est aussi la royauté, c'est aussi la majesté, la domination. Alors, la seconde 1910 fait bien de rendre main par pouvoir, comme ça on comprend mieux de quoi il est question, nous qui ne parlons pas l'hébreu au quotidien. Mais on perd un peu en poésie. Maintenant, qu'est-ce que ce verset peut bien vouloir nous dire ? Il constitue un rappel important, puisqu'il pointe du doigt le fait qu'un bon mot, un mot pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un, peut faire son bonheur. La vie est au pouvoir de la langue. Elle la tient dans sa main. Que l'on pense, par exemple, à une recommandation pour un travail, une promotion qui permettrait à une personne d'enfin l'obtenir, ou alors à un témoignage favorable en faveur d'un ami devant l'élu de son cœur. Vous savez, c'est un peu le rôle de copilote qu'on adopte parfois, que j'ai dû adopter par le passé. Alors, c'est une stratégie qui ne porte pas toujours ses fruits parce que lorsqu'on fait le copilote comme ça, qu'on va voir l'élu du cœur d'un ami pour plaider en sa faveur, bon, c'est un peu comme un avocat devant un juge, c'est en fonction du client, ça marche plus ou moins bien. Ouais, on oublie trop souvent le rôle de ces copilotes qui ont permis à tant de couples de se former. Mais pour l'instant, nous n'avons vu là que la deuxième partie du verset, l'aspect positif. Mais cette conclusion du verset, « Quiconque l'aime en mangera le fruit », est à double tranchant. Car si ce verset parle de la vie, Il parle aussi de la mort. À l'opposé du bon mot, du mot en faveur de quelqu'un, pour faire son bonheur, pour contribuer à son bien-être, il y a donc aussi le mauvais mot, le mot contre quelqu'un, qui peut contribuer à son malheur, voire le faire. Et pourquoi pas lui ruiner sa vie ? Que l'on pense aux témoignages, ou aux fausses rumeurs par exemple. C'est toujours à l'origine un mauvais mot qui provoque un anéantissement, vous savez, dans ces cas qui me touchent beaucoup personnellement, d'enfants harcelés à l'école sur qui courent de fausses rumeurs et qui en viennent à commettre le pire. Et cela me rappelle une anecdote du lycée. Il y avait dans notre établissement une fille très jolie, très gentille, très populaire, et qui de ce fait attirait beaucoup les convoitises et les jalousies. Alors, à un moment donné, une rumeur a couru sur elle, une rumeur de la pire espèce. On affirmait qu'elle avait déjà couché avec deux garçons en même temps. Alors, je suis désolé de ne pas vous épargner ce détail, mais la Bible, quand elle dénonce le mal, n'épargne pas les détails, elle ne les censure pas. Et cette rumeur, peu importe si elle était vraie ou si elle était fausse, tout le monde le prenait pour argent comptant, parce que c'était sensationnel, parce qu'on se dit « Ah, enfin, il se passe quelque chose dans ce lycée !» Mais cette pauvre R dut en faire les frais. Alors au début, bien sûr, elle avait tendance à faire comme si cela ne l'atteignait pas, puis petit à petit, elle se rendait de moins en moins en cours, puis à la fin, plus du tout. Ce n'est qu'à la rentrée d'après, c'est-à-dire à peu près 6 mois plus tard, que nous l'avions revue, très amaigrie. Et plus personne d'ailleurs ne parlait de cette rumeur à la rentrée, en fait, l'effet sensationnel avait pris fin. Mais cette simple fausse rumeur, qui pour nous n'était qu'un racontard, qu'un effet de mode, lui avait gâché sa vie, lui avait gâché son adolescence. Elle aurait pu commettre le pire. Et cela la marquera sûrement à vie. Les fausses rumeurs, les faux témoignages, la Bible ne plaisante pas avec ça. Souvenons-nous de ce que dit la parole de Dieu à propos des faux témoignages. C'est même le 9e des 10 commandements. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Lit-on dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 16. C'est la mort et la vie qui sont au pouvoir de la langue. La langue est à double tranchant. Je le disais, je le répète, car la Bible à plusieurs reprises nous met en garde. C'est ainsi que Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître au chapitre 3, versets 7 à 12, nous avertit. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que dit-on de quelqu'un qui médit ? De quelqu'un qui fait un mauvais usage de sa langue. On dit justement qu'il est une mauvaise langue. Oui, l'homme a dompté bien des bêtes sauvages, comme l'écrit Jacques, et pourtant l'homme, qui est venu à bout des mammouths sur la terre et des baleines sur la mer, ne parvient même pas à dompter sa propre langue. Il ne se rend pas compte que l'arme la plus meurtrière dont il dispose n'est pas entre ses mains, mais dans sa bouche. C'est un fléau impossible à maîtriser, nous dit Jacques. Car la langue est pleine d'un venin mortel. Et pourtant, dans l'épître de Jacques, tout comme dans le livre des Proverbes, il est rappelé que la langue a un pouvoir de nuisance, un pouvoir de mort, mais aussi un pouvoir de vie. Je reprends la lecture des versets. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction, c'est la vie et la mort. Et Jacques conclut, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, que veut-il dire par là ? Il nous dit que cette dualité doit prendre fin. Et c'est à 2 reprises, justement, en Jacques 1,8 et 4,8, qu'il dénonce ce qu'il désigne comme irrésolu. Là encore, je cite la traduction Louis II. Du moins, c'est ainsi que nos traductions rendent un adjectif rare que Jacques utilise en grec. Dans la langue originale, il emploie le terme dipsychos. Alors, dipsychos, ça désigne quelqu'un qui a un double esprit, qui dit une chose mais qui ne l'incarne pas. Et c'est cette dualité, avec d'un côté le cœur et de l'autre la langue, qui, selon Jacques, ne devrait pas être. Le chrétien ne peut pas être un double d'esprit, un dipsychos, car il est transformé par un esprit, le Saint-Esprit, notre Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Il n'y a pas deux esprits selon lesquels nous devrions marcher, il n'y en a qu'un seul, et c'est le Saint-Esprit. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit, écrit encore l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Alors là aussi, Paul emploie un verbe en grec qu'il est difficile de rendre en français et que je vais essayer un peu de développer. Alors le verbe qu'il emploie en grec peut signifier à la fois contempler, comme quelqu'un qui se contemple dans un miroir, et réfléchir, comme un miroir qui réfléchit. Et cette ambivalence du sens en grec n'en est pas une, en fait, pour Paul, parce qu'elle traduit une seule réalité. Nous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. De par cette transformation qu'il opère en nous, nous réfléchissons sa lumière. Nous contemplons le Seigneur et nous réfléchissons sa lumière. Et pour que nous ne devenions pas des doubles d'esprit, pour que ce qui sort de notre bouche soit raccordé avec notre cœur, nous devrions le prier et lui demander « Seigneur, donne-moi un cœur qui t'entende et une langue qui te confesse. Seigneur, garde-moi de la maladie du double d'esprit qui se sert de sa langue pour professer le mal et non proclamer ta gloire. » Car oui, cette demande devrait aussi se trouver dans nos prières. Lorsque nous prions, nous ne prions jamais, ou alors que trop rarement, pour que le Seigneur nous garde de devenir des mauvaises langues. Nous le devrions pourtant, car personne n'est à l'abri. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, nous rappelait Jacques. Et c'est pourquoi, parce que aucun homme ne le peut, nous devrions prier Dieu pour qu'il nous vienne en aide. Car sans lui, nous ne pouvons tenir notre langue en bride. Jacques, chapitre 1, verset 26. Nul sans Dieu n'est à l'abri, pas plus que nul n'est à l'abri de Dieu, de son jugement. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné, déclare notre Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 36 à 37. C'est vrai, parce qu'en société, nous croyons que les beaux mots, les belles paroles permettent de nous dissimuler, de montrer aux gens une facette plus favorable de nous-mêmes. Mais Dieu, lui, voit tout. C'est tout de nous. Nous sommes comme Adam, comme Cain. Nous cherchons à fuir ce regard, mais nous n'y parvenons pas. Jésus l'annonce, il y aura les justes et les condamnés, ceux qui auront proclamé la gloire de Dieu et ceux qui auront voulu plaire au monde. Satan parle bien. Il parle même très bien, c'est un beau parleur. Et ses fils aussi. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu n'aiment pas les belles paroles, ne s'arrêtent pas à ça. Ils adorent la vérité. L'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 3, versets 18 à 20, écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Là encore, le cœur est mis en rapport avec la langue. La vérité n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation philosophique, c'est une personne, c'est Dieu incarné, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui a racheté tous nos péchés sur la croix. Et parce que nous sommes de la vérité, c'est ainsi que les premiers chrétiens s'appelaient. Ils ne s'appelaient pas chrétiens entre eux, ils disaient « Nous sommes de la vérité, nous sommes ceux qui sommes de la vérité ». Et c'est parce que nous nous définissons comme eux que nous devons parler et agir en conséquence comme eux, avoir confiance en la vérité. Et c'est pour cela que nous la confessons. D'ailleurs, même ceux qui ne veulent pas la confesser, à la fin des fins, lors des derniers jours, devront reconnaître que Christ est Seigneur, qu'ils le veuillent ou non. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, écrit encore l'apôtre Jean écrit pardon, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ceux qui ne savent pas tenir leur langue, qui s'en servent à mauvais escient, se la verront tirer bien fort au jour du jugement. Oui, ils confesseront que Christ est Seigneur, qu'il n'y en a point d'autre, et ne pourront rien faire. Et là, regardez tout ce que nous avons pu parcourir de la condition humaine dans la Bible à partir de ce petit verset 21 du chapitre 18 dans le livre des Proverbes. Et c'est cela que je trouve tout à fait admirable, magnifique. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, que nous partageons les versets qui nous font cogiter, voir et repenser le monde. Alors ici, c'est moi qui ai eu le privilège de vous partager mon verset préféré. Je remercie encore Victor pour ça. Mais j'aimerais aussi vous rapporter la fois où un frère me disait beaucoup penser et repenser à un verset de Jonas, dans lequel Jonas appelle les habitants de Ninive et les animaux de Ninive, oui, les animaux, à se repentir s'ils ne veulent pas subir le courroux de l'Éternel. Alors je vous lis donc ce verset qui le faisait tant réfléchir et qui se trouve dans le livre de Jonas au chapitre 3, verset 8. « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » C'est étrange, non? Pourquoi les animaux devraient se repentir? Me fit-il remarquer. Et j'avoue qu'avant qu'il ne m'en parle, j'avais beau lire, relire et encore relire Jonas, en plus c'est un petit livre, donc on peut le faire bien des fois. Je n'y avais pas prêté attention, c'est vrai, je ne me suis pas dit, en fait ça ne va pas de soi que des animaux se repentent. Alors là encore, c'était lui qui avait trouvé un verset un peu isolé, un peu seul dans son coin. Et on a beaucoup, beaucoup parlé de ce verset même. Je ne pourrais d'ailleurs pas ici vous rendre compte, même de façon synthétique, de tous les échanges que nous avons eus rien que sur ce verset. Il pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une prédication tout entière. Car chaque verset est une porte d'entrée dans cette bibliothèque qu'est la Bible. Et comme dans les bibliothèques, il y a toujours des rayons que nous fréquentons plus, vers lesquels nous nous dirigeons plus, des rayons que nous laissons un peu de côté. Et comme dans les bibliothèques, c'est aussi beaucoup le bouche à oreille qui nous permet de connaître les versets que les autres ne connaissent pas, ou moins. Je crois sincèrement, ces échanges autour de la Bible, à propos de la parole de Dieu, constituent l'un des plus beaux aspects de la vie chrétienne. Je dis de la vie chrétienne, puisqu'il faut se l'admettre, il faut regarder les choses en face, peu de gens parlent encore de la Bible aujourd'hui, y compris en France. La France est redevenue une terre d'évangélisation. Mais ces moments de discussion entre chrétiens sont à chérir, car ils sont une bénédiction de Dieu. L'apôtre Jean, pour conclure sa troisième épître, versets 13 à 15, écrit qu'il s'arrête d'écrire, vous avez bien entendu, car il y a des choses qui doivent se dire, se partager de personne à personne. Il souhaite laisser la place à une conversation de vive voix. Je lis donc. J'aurai bien des choses à te dire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. C'est vrai, les avancées technologiques ont permis de réduire les distances. On peut maintenant parler à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où dans le monde. Et pourtant, rien ne vaut une conversation physique de personne à personne. Aucune webcam, aucune émoticône ne pourra me transmettre les émotions de la personne en face de moi. Il n'y a qu'en la voyant que je pourrais ressentir cela. D'ailleurs, nous, évangéliques, nous aimons beaucoup arriver en avance au culte et partir bien tard, parce que nous aimons parler avec les autres, avec les frères et les sœurs. Comme l'apôtre Jean, nous ne voulons pas tout confier à l'encre et à la plume, au SMS, au courriel. Car ce que nous pouvons lire sur le visage d'un autre, nous ne pouvons que le lire devant lui. Alors nous nous entretiendrons de vive voix. De vive voix. Cela peut aussi dire que l'on se fâche entre frères et sœurs. Ça nous arrive en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri non plus. La salutation aussi est très importante dans la Bible. Ce n'est pas pour rien si l'apôtre veut que l'on se salue chacun personnellement. Parce que se saluer personnellement n'a rien à voir avec le salut bisame qu'on a l'habitude de lancer à tout le monde en Alsace lorsque l'on part. Et lorsque nous nous saluons personnellement, nous prenons aussi personnellement des nouvelles de chacun d'entre nous. C'est prendre le temps d'échanger, de se tenir au courant, de poser la vraie question. Et la vraie question, ce n'est pas « ça va ?» qui n'est alors qu'une autre façon de parler de la météo. On dit un peu « ça va » comme si on commentait le temps qu'il faisait dehors. Non, la vraie question, c'est « est-ce que tout va bien chez toi ?» En posant cette question, nous devons être prêts à recevoir un « non, tout ne va pas bien », qui nous poussera alors à poser une autre question, à décupler d'empathie et à demander à la personne « Peut-on prier pour toi ?» Et si c'est un oui, si la personne nous dit « Oui, ça va très bien chez moi, et alors, alléluia, un frère va bien, et on peut quand même prier pour lui. » Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous souhaitons la paix entre frères et sœurs, cette paix nous vient de Dieu, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui apaise les tempêtes dans nos vies. N'oublions jamais de lui rendre gloire, car c'est à lui seul qu'elle revient. Oui, à Dieu seul soit la gloire, c'est cela que doivent confesser nos langues. C'est en la confiant à Dieu et en le confessant en lui que nous en faisons bon usage. Il y a le bon et le mauvais usage. Alors je voudrais prier. Seigneur, toi qui vois tout, sais tout de nous. Tu sais où nous sommes quand nous voulons fuir ton regard. Tu vois l'enfer, l'envers du décor derrière tous nos mensonges. Sanctifie-nous afin que nous n'ajoutons pas du mal au mal par le biais de nos paroles, mais aussi de nos actes. Seigneur, je voudrais aussi te remettre ces enfants, ces adolescents qui ont tant souffert du harcèlement pendant leur année scolaire. Viennent les vacances qui ne sont qu'un sursis pour eux, avant de devoir retourner en cours à la rentrée, pour y subir à nouveau le tranchant des mauvaises langues. Fortifie-les, Seigneur, je t'en prie. Fais-toi connaître à eux, assure-les de ta présence qui soutient, comme tu nous soutiens. À toi seul, Seigneur, sois la gloire. Par nos langues, nous le confessons. Amen.